Les Invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute.
On ne va pas guérir un cancer avec des carottes. Ça fait du bien de l'entendre, parce que de nos jours, on peut se sentir responsable de ne pas guérir alors même que l'on boit du jus de céleri tous les matins. L'Ayurveda est le plus ancien système de santé traditionnel au monde et considère que l'on est toutes et tous uniques. On ne peut donc pas manger la même chose que ses voisins, voisines et avoir les mêmes résultats. Le fameux 5 fruits et légumes par jour nécessite donc une réflexion plus individualisée. Tiffen, nutritionniste spécialisée en Ayurveda, l'a bien compris. L'asthme et les douleurs articulaires qui faisaient autrefois partie de son quotidien sont aujourd'hui sous contrôle et réduits à un minimum. Pourtant, ça n'était pas gagné. Née prématurée à 1,2 kg avec des problèmes cardiaques, respiratoires, puis un prédiabète diagnostiqué à l'âge de 8 ans, sa santé a toujours été délicate. La découverte de l'Ayurveda, des années plus tard, fut un déclic. 15 jours de petits changements respectant les principes ayurvédiques suffirent à éliminer 70% de ses symptômes respiratoires. Et c'est avec nous qu'elle a décidé de les partager. On ne se sentirait pas un peu privilégié ?
Hello Tiffen !
Salut Tamara !
Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ?
Eh ben écoute, ça va super bien. On est juste à la fin du printemps, donc le printemps c'est mon temps préféré. Donc je suis super contente. Et toi Tamara, comment ça va ?
Écoute, ça va. C'est un peu chargé émotionnellement cet épisode parce que je pense que c'est le dernier que j'enregistre avant d'accoucher et avant toute la période postpartum. Donc en gros, là on est le 12 juin et je pense qu'avant janvier 2024, je vais pas en enregistrer d'autres. En tout cas, il y a des grandes chances. Et ça veut pas dire qu'il y a pas d'épisodes qui vont sortir tout au long, parce que voilà, il y en a déjà qui sont enregistrés. Mais c'est le dernier en tout cas que j'enregistre pendant cette période. Donc voilà, c'est un petit deuil de quelques mois de pas rencontrer des gens derrière le micro. Mais c'est pour vivre une autre aventure. Et aujourd'hui, on enregistre un épisode qui est inédit, comme c'était le cas dans l'épisode 15 du podcast, car tu es une personne qui accompagne les personnes en situation de maladie chronique, ou en tout cas, ça t'arrive. Et est-ce que tu peux nous dire en qualité de quoi tu accompagnes les personnes malades ?
Alors, eh bien, moi, je suis nutritionniste spécialisée en Ayurveda. Ça veut dire que j'accompagne les personnes, d'ailleurs aussi bien les personnes en bonne santé, entre guillemets, que les personnes qui vivent avec une pathologie. Je les accompagne à améliorer leur qualité de vie grâce à l'alimentation et pas n'importe quelle alimentation. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter les calories, on ne compte pas les vitamines, etc. On suit les principes de l'Ayurveda dans l'alimentation et l'hygiène de vie pour se sentir mieux, pour vivre mieux Et dans le cas d'une maladie chronique, ce que ça permet, c'est d'une part de pas aggraver sa maladie quand on en a une, par une hygiène de vie qui ne conviendrait pas ou par des aliments qui ne conviendraient pas. Et ça permet aussi d'améliorer en ajoutant, j'aime pas trop utiliser le mot rituel, mais en tout cas certaines routines dans la vie quotidienne pour soulager des symptômes. Voilà.
Et du coup, l'Ayurveda, c'est quoi ? Parce que moi, depuis des années, je vois massage ayurvédique, rituel ayurvédique, mais ça ne m'a jamais parlé avant de te rencontrer. Hein. Donc vraiment, je ne voyais pas de quoi on parlait à ce moment-là. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est l'Ayurveda en quelques lignes ?
Alors, l'Ayurveda, c'est considéré comme le plus ancien système de santé traditionnel au monde. Alors, on trouve des traces de l'Ayurveda qui datent d'il y a plus de 5000 ans. Mais je dirais, moi, que l'Ayurveda est sans âge et universel parce qu'en fait, suivre les lois de l'Ayurveda, c'est rien d'autre que de suivre les lois universelles de la nature. La spécificité vraiment de l'Ayurveda, c'est de considérer qu'on est tous uniques. Et parce qu'on est tous uniques, on va pas tous manger la même chose, on va pas tous vivre de la même façon. Donc, dans cette médecine, il y a toute une partie préventive. Et donc, c'est cette partie-là que j'utilise quand des personnes viennent me voir en me disant juste « Oh, je me sens un peu fatiguée en ce moment, j'ai besoin de... » où j'ai besoin de me remettre sur les rails. Donc ça va servir en préventif. Et il y a aussi toute une partie curative où on peut utiliser des plantes, on peut utiliser des traitements purgatifs. Alors les traitements purgatifs, ça ne fait pas partie de mon attirail. Moi, c'est vraiment centré sur la nutrition et l'hygiène de vie. Mais vraiment, le point formidable de l'Ayurveda, c'est de se dire... on est tous différents. Donc, 3 produits laitiers par jour, 5 fruits et légumes par jour, etc. Ça ne fait pas loi dans cette médecine. Ça dépend de qui, en quelles circonstances, en quelle saison. Qu'est-ce que je vis en ce moment qui fait que ce que je prends d'habitude, ça ne me convient peut-être pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ma sœur et moi, pourtant on se ressemble beaucoup, on est de la même famille, on a le même sang, eh bien elle peut manger tout et n'importe quoi sans prendre un gramme, et puis moi dès que je mange une feuille de salade, je le sens arriver. Voilà.
Ouais, je trouve hyper intéressant cette perspective-là de l'unicité, parce que je trouve qu'aujourd'hui, au niveau alimentaire, bah, il y a plein de choses qui sont en essor et il y a un côté très positif. Hein. On s'est rendu compte évidemment de l'importance et de la place de l'intestin et tout ce que ça générait au final aussi hein, comme maladie chronique, un intestin qui fonctionne mal. Mais on est aussi arrivé à un stade où il y a tellement de régimes alimentaires différents, le régime cétogène, la chrononutrition, les jeûnes, un peu tout ça. Et puis souvent, quand on va, par exemple, s'y intéresser, lire un livre là-dessus, aller sur un forum, discuter sur les réseaux sociaux, il y a cette chose un peu, pour moi, qui peut m'embêter, où on perd cette unicité. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on mange tous de cette manière parce que ça a aidé quelqu'un pour une situation, donc faudrait tous... que ce soit transversal. Mmh. Et puis en fait, on se rend compte, bah moi aussi en ayant une pathologie non seulement neurologique mais intestinale, qu'en réalité, c'est pas si simple. Puis le 5 fruits et légumes par jour, en tout cas le 5 fruits, pour moi, c'est catastrophique. Mmh. Les fruits, voilà, ça se digère pas si facilement. Mmh. Alors que pour d'autres, ce sera, mais c'est plein de vitamines, il faut absolument manger cru. Enfin. Et en fait, cet aspect que tu parles vraiment, qui est très individuel, ça me parle beaucoup. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes qui ont différents symptômes parce que on vit pas du tout avec des choses qui sont similaires. Et puis, comme tu dis, des fois, c'est aussi en fonction des situations de la vie et des saisons.
Tout à fait.
Ouais. Ok, donc trop chouette. Donc, comme tu disais, toi, tu es nutritionniste spécialisée en Ayurveda. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te former dans cette médecine traditionnelle indienne qui, je crois pas, est si connue que ça, en réalité ?
C'est vrai. Alors, ce qui m'a amenée à l'Ayurveda, eh bien, c'est la maladie. Bon, alors moi, il faut dire que je suis née grande prématurée, je pesais 1,2 kg à la naissance, je suis née à 7 mois, j'ai failli mourir, voilà. Je suis née avec des problèmes cardiaques, pulmonaires. J'ai toujours eu une santé un peu vacillante, dans mon enfance. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes respiratoires avec beaucoup de mucus. On a dit à un moment que j'avais des allergies, mais on ne trouvait pas quoi, etc. Et puis, bon, bah voilà, quoi, j'ai poursuivi mon chemin. À l'âge de 8 ans, on m'a trouvé un prédiabète, donc j'ai suivi un régime, c'est parti, et j'ai pu continuer une vie comme tous les enfants. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que mes problèmes respiratoires que j'avais depuis l'enfance se sont poursuivis jusqu'à à peu près mes 28-30 ans. Là, on m'a diagnostiqué un asthme. Bon, ça m'a pas immensément perturbée. Hein. J'ai eu mon bronchodilatateur, voilà, comme beaucoup de gens. J'ai continué à vivre comme avant. Seulement, mes problèmes respiratoires ensuite se sont aggravés. C'est-à-dire que je suis arrivée à un moment où je ne pouvais plus respirer par le nez. Je ne pouvais respirer que par la bouche. Quand j'étais enceinte, c'était encore pire. Donc, j'ai passé la moitié de ma grossesse à dormir assise. J'étais épuisée, vraiment. Et puis, moi, j'ai fait la tournée des médecins. Donc, médecin généraliste, ORL, gastro-entérologue, j'ai fait des radios. Et à la fin, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on ne savait pas ce que j'avais. Il y avait visiblement un problème puisque je ne pouvais pas respirer. On ne savait pas. Donc, mon médecin, au départ, m'a prescrit un spray nasal qui a tout résolu pendant un mois. J'étais super contente. Et puis, au bout d'un mois, je me suis mise à saigner du nez, mais vraiment profusément. Et je me suis dit, mais si on me donne un médicament qui règle mon symptôme d'un côté et puis qui m'en provoque un autre de l'autre, ça va pas. Et donc, c'est suite à ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Si il y a ce problème de santé, forcément, il y a une cause. Alors moi, ça, c'est la façon dont moi, je fonctionne. Je me suis dit, il y a une cause, c'est pas possible, ça vient pas de nulle part. Et c'est à ce moment-là que, je sais pas, j'ai eu cette intuition, j'avais déjà entendu ce mot, Ayurveda. J'ai commencé à m'y intéresser, je me suis acheté des livres, j'ai lu. Et puis, ce qui a été flagrant, c'est que j'ai commencé à essayer des principes de l'alimentation ayurvédique que j'avais pioché à gauche et à droite. Pas toujours les bons d'ailleurs pour moi, mais j'ai testé des choses. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que... au bout de 15 jours de régime ayurvédique, 70%, j'allais dire 70 parce que je suis d'origine française, mais 70% de mes symptômes ont disparu. Alors là, pour moi, ça a été la révolution. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Mon médecin me dit qu'il ne sait pas ce que j'ai, qu'il n'y a pas vraiment de traitement, parce qu'on m'a quand même proposé une turbinectomie pour pouvoir mieux respirer, donc une opération au laser, que j'ai refusée parce que ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais comment ça se fait? On me propose une opération, et puis juste en changeant deux petites choses, j'élimine la majeure partie de mes symptômes. Comment ça se fait? D'où ça vient? Et là, je me suis dit, mais je veux étudier ça, parce que je veux comprendre. Et puis, c'est tellement formidable. Je voudrais que tout le monde sache, tout simplement. Mmh. Voilà.
Et donc, il n'y avait pas un effet placebo du début? Parce qu'on peut, on peut voir ça hein, souvent dans des traitements qu'on commence un peu au début. On se dit, ah, je sens quelques améliorations, on est très observateur. Mmh. Puis pour finir, ça revient. Ça n'a pas été le cas chez toi?
Ah non, alors là, pas du tout. Non, c'était très net.
Tu disais, tu as changé deux petites choses. Ouais. Concrètement, c'était lesquelles?
Alors, les petites choses, peut-être même un peu plus, hein, mais tout simplement, je mangeais pas mal de produits laitiers, surtout du fromage, surtout le soir. Je mangeais aussi de la viande à l'époque. Et voilà, j'avais cette habitude de manger tout ce que je voulais. J'avais aucun problème de poids, donc voilà, y compris des sucreries. Il m'a suffi de supprimer le fromage le soir, les sucreries le soir. Entre-temps, je suis devenue végétarienne, mais on n'a pas à devenir végétarien forcément. C'est encore une question de profil, mais moi, je le suis devenue. Et puis là, ça a été radical, quoi. Mais radical. Même, il y a eu toute une période où je sécrétais beaucoup de mucus. J'avais même 3-4 rhumes par an qui duraient une semaine. C'était pénible. À partir du moment où j'ai changé ça, mais ça a été flagrant. Mmh. Et même, moi j'étais malade l'an dernier, j'ai eu la Covid. Mais avant ça, je n'avais pas eu de rhume depuis 2016. Donc, de 2016 à 2021, 2022, je n'ai pas eu un seul rhume, pas une grippe.
Wow.
Donc, voilà.
Bon, autant dire que je te jalouse un peu parce que je mange ni produits laitiers ni sucre et ça n'a absolument rien changé à mes symptômes. Mais c'est vrai que c'est très connu pour tout ce qui touche à la sphère ORL, les personnes qui sont très souvent prises, qui ont des sinusites chroniques. J'ai souvent entendu que l'arrêt des produits laitiers avait un impact hyper important.
Alors, c'est pas... Je dirais, ce n'est pas aussi que l'arrêt des produits laitiers. Parce que en Ayurveda, on ne diabolise pas du tout le lait ni les produits laitiers. C'est juste que la façon dont nous, ici en Occident, on consomme les produits laitiers, c'est juste incroyable. Pas dans le sens positif, mais je dirais presque anti-naturel. Ça va à l'encontre des besoins du corps. C'est-à-dire que en Ayurveda, le lait est vraiment glorifié hein, dans les textes classiques. Mais de quel lait parle-t-on ? Produit par quelle vache ? Comment ? Dans quelles conditions ? Ensuite, en quelle quantité ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui la quantité de lait qu'il faut pour produire du beurre ? La quantité de lait qu'il faut pour produire du fromage ? Et nous, on consomme ça à foison, comme si ça pleuvait du ciel. Le lait et les produits laitiers ne sont pas faits pour être consommés de cette manière-là. En particulier, le lait UHT en brique qui va stagner 3 mois sur les étagères du magasin, c'est pas fait pour ça. Le lait qui est homogénéisé, parce que pour qu'il reste bien blanc et que la crème ne se sépare pas, on le traite pour qu'il reste bien uniforme. Mais ça, pour le système digestif, c'est terrible. Donc, en fait, ce n'est pas juste arrêter les produits laitiers, mais c'est réfléchir globalement à la façon dont on s'alimente, à la façon dont on transforme les produits. Voilà.
Incroyable. Du coup, moi, j'ai envie de te demander quels sont les grands principes de cette médecine. Parce que là, tu as parlé au niveau alimentaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tu parlais un peu de... Tu disais pas rituel, mais plutôt routine. Est-ce que ça rentre dans ces principes ? Je suis très curieuse de t'entendre à ce sujet.
Alors, les grands principes, y en a tellement. Je dirais le principe numéro un, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on est tous différents. Donc, mais dans ces différences, il y a quand même des grands schémas qu'on peut repérer. Par exemple, concernant le sommeil, nous, en tant qu'êtres humains, on est plus fait... pour vivre le jour et dormir la nuit. Et donc, quand on poursuit notre activité mentale ou physique d'ailleurs, au-delà d'une certaine heure, on tape un peu dans notre réserve de vitalité. Les grands principes, en fait, ce sont les principes de la nature. Par exemple, je te parlais tout à l'heure du fait que le soir, j'avais supprimé certains aliments. Un grand principe en Ayurveda, c'est que notre feu digestif, il suit en général la courbe du soleil. Donc le soleil, quand il se lève, il est bas dans le ciel. Et notre feu digestif, à ce moment-là, dans notre corps, donc notre feu digestif, c'est un peu comme le feu du ciel, il est bas aussi. C'est-à-dire que ce qu'on peut transformer, ce qu'on peut brûler comme nourriture, c'est plus faible que le midi, où le soleil est à son apogée, le feu est à son apogée et notre feu digestif est à son apogée. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut manger plus en plus grande quantité ou plus nourrissant que le soir où le soleil est couché, surtout en hiver. Là, ça va, c'est l'été, donc il se couche plus tard. Mais en hiver, typiquement, ici, le soleil il peut se coucher à 17h30.
Totalement.
Donc, ça veut dire que quand on mange à 19h-20h, la capacité de transformer, digérer ce qu'on mange est plus faible. Et nous, en Occident, puis aussi avec les horaires de travail, c'est difficile pour nous de vivre en synchronicité avec ces lois de la nature parce que on rentre du travail à 19h30-20h, on mange vers 20h-20h30. Et puis, c'est un peu souvent le seul moment de convivialité où la famille se retrouve. Donc, on a envie de partager un repas convivial. La difficulté, c'est que ça va à rebours, justement, de ces lois de la nature. Donc, je dirais le principe majeur, c'est de vivre en accord, en harmonie avec la nature, parce que quand on vit en harmonie avec la nature, on vit en harmonie avec sa nature.
Mmh. Voilà. Et du coup, toi, tu fais comment ? Parce que t'as une famille, donc ouais. T'as un conjoint et un fils. Mmh. Le soir, est-ce qu'il y a pas justement ce moment de tabler avec beaucoup de nourriture ? Est-ce que c'est plutôt le matin que vous vous retrouvez ou à midi pour ça ?
Alors, aussi bien mon conjoint que moi-même, on est indépendants. On est tous les deux thérapeutes. Donc, on organise un peu nos horaires comme on veut. Mais... ça, c'est intégré depuis le départ. D'ailleurs, mon conjoint, il en a assez. Mon fils, il en a assez aussi. Mon fils, dès l'âge de 4 ans, il me parlait de feu digestif, comme il disait. Donc, en fait, ça fait tellement partie de notre vie que c'est instinctif, en fait. Tous, bon, mis à part mon fils, il aime quand même bien manger des frites, même le soir, mais je lui répète. C'est devenu... En fait, ces principes, au départ, ça paraît un peu étranger. Nous, on a envie d'aller manger au restaurant le soir. Mais au fur et à mesure qu'on se remet comme ça en lien avec la nature, on se rend bien compte, finalement, que le corps, à 20h, il n'a pas envie de s'alourdir avec une grosse raclette. Donc, c'est pas forcément... On n'a pas besoin forcément de manger beaucoup pour être convivial. Voilà, on prend la nourriture pas comme un moyen de convivialité, mais on prend la nourriture comme un moyen de nourrir le corps. Et je pense que quand on considère, bon, ça c'est mon point de vue, hein, je dis pas que ça doit être le point de vue, mais tel que je vois les choses, quand on considère que la nourriture c'est un moyen de convivialité, on dévie un peu finalement la nourriture de sa fonction, puisque la fonction première de la nourriture, c'est de nourrir le corps et de lui donner de l'énergie pour vivre.
Mmh. Voilà. Ça risque de nous faire tiquer, hein, ça, hein, parce que c'est vrai qu'on le voit, on voit beaucoup, hein, ce moment comme étant très fédérateur. Mmh. On s'invite avec les gens pour bruncher, pour dîner, même pour goûter. Mmh. Il y a très souvent, pas l'excuse, mais le prétexte, c'est les retrouvailles autour d'un repas. Mmh. C'est rarement... Alors, il peut y avoir hein, le sport, par exemple, ça aussi, c'est très fédérateur. On se retrouve pour aller faire une rando, pour aller nager, ce genre de choses, faire un cours de yoga, j'en sais rien. Mmh. Mais c'est vrai que le repas, il est par chez nous, en tout cas, vraiment vu comme un instant de partage, puis même de discussion. Mmh. C'est les moments où on se raconte la journée, ou... Enfin, voilà, donc c'est intéressant. En fait, c'est vraiment... Dans l'Ayurveda, on pourrait faire un pas de côté par rapport à ça et trouver peut-être d'autres moments où on est dans cette convivialité, de communication et où on se fédère dans la famille.
Bah exactement, d'autant que d'un point de vue ayurvédique, le repas, c'est pas censé être un moment de discussion justement. Alors là, je sais que je vais encore briser une habitude, parce que effectivement, c'est le moment où on va discuter et échanger. Mais d'un point de vue ayurvédique, dans l'idéal, je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais le repas, ça devrait être un moment où on se concentre sur la nourriture, sur ce qu'on est en train de goûter, d'avaler. Bon, d'un point de vue concret, ça a une application immédiate. On voit tout de suite que si on est occupé à parler pendant le repas, on peut ne pas se rendre compte de tout ce qu'on a avalé. D'autre part, ça perturbe le processus de la digestion. Pendant qu'on parle, on avale de l'air. Donc, le repas, c'est plutôt un temps de calme. On mange en conscience, on en parle beaucoup de ça, de manger en conscience. Et si on est occupé soit à regarder sur les réseaux, soit à parler, soit à rire, soit... Ben déjà, on peut avaler de travers, ou on peut manger trop, ou manger quelque chose qui ne nous convient pas. Et donc, oui, c'est essayer de... On considère le repas vraiment d'une autre manière. Mmh. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit faire grise mine au repas, qu'on doit s'abstenir de s'inviter, etc. Mais toujours garder sous-jacent cette conscience de ce qu'on fait.
C'est marrant parce que personnellement, je déteste parler en mangeant. C'est souvent le moment où on se retrouve, par exemple, avec des copines, puis qu'elles disent bon bah alors raconte tel événement de ta vie, et je suis là non, je le raconte après le repas. Mmh. Ça veut pas pour autant dire que je mange en pleine conscience, pas du tout. Mais c'est juste que j'arrive pas à faire les deux à la fois, tout simplement. Mâcher et parler, je trouve ça très compliqué. Mmh. Et du coup, parce que alors là, tu parlais un peu dans les grands principes, il y a autour de la nourriture, il y a autour du sommeil. Est-ce qu'il y a un peu d'autres domaines aussi que ça recouvre, l'Ayurveda, où on peut être sensible et attentif?
Le style de vie, ça comprend aussi la façon dont on travaille, ce qu'on fait au jour le jour dans notre travail. Ah oui, alors très important, le contrôle des sens. C'est-à-dire que... ah oui, ça c'est très très important. Selon l'Ayurveda, une utilisation excessive de nos sens, ça peut être aussi bien la vue que l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, ça conduit à une détérioration de la santé. Pour donner des exemples concrets, par exemple, aujourd'hui, on travaille tous sur ordinateur, c'est devenu un indispensable. Alors, à ce sujet, on parle beaucoup de santé mentale, notamment avec les réseaux sociaux, etc. aujourd'hui. Mais juste d'un point de vue ayurvédique, regarder un objet lumineux de façon excessive, comme on le fait quand on regarde un écran, ça conduit à une détérioration de la vue et aussi à des troubles du sommeil. Ça peut provoquer aussi de l'agitation mentale. Et puis, de fil en aiguille, c'est un peu comme un domino, quoi. Ça, c'est le point d'entrée. On va se dire, oui, ça abîme ma vue. Mais il y a tout le reste derrière. Qu'est-ce que ça fait sur mon sommeil? Qu'est-ce que ça fait sur mon mental qui est tout le temps en train de travailler? Donc oui, ça, le contrôle des sens, c'est hyper important aussi avec tout ce qui est la musique qu'on écoute. Alors bien sûr, ça peut être la musique qui peut être écoutée très forte, mais je dirais, il n'y a pas que ça, parce qu'au quotidien, nos sens sont sursollicités. Vraiment. Et ça, toi qui as fait une retraite, je pense que tu sais ce que ça veut dire avec Vipassana, cette stimulation des sens, ça engendre du mouvement, de l'agitation dans le mental. Et je pense que tout le monde sait ce que ça donne, l'agitation dans le mental, de la fatigue, ça peut amener de la déprime, etc., etc., des tas de problèmes peuvent découler de cette surstimulation.
Et tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont malades chroniques et qui ont une hypersensibilité à la stimulation, à tout ce qui est sensoriel. Et est-ce que tu penses que justement c'est un excès à un moment donné de tout ça, d'avoir sursollicité les sens, qui fait qu'à un moment donné c'est plus possible?
Alors, ça peut. Mais ça peut venir d'autres choses aussi. Quand il y a une hypersensibilité à certains stimuli, on pense tout de suite à une aggravation de Vata, c'est un des trois doshas. Et cette aggravation, elle peut venir de tas de choses, parce que ça peut être aussi causé par le vieillissement. On sait que les personnes âgées, par exemple, elles tolèrent moins bien le bruit, les odeurs fortes ou ce genre de choses. En fait, ça peut venir de tas de circonstances différentes, mais effectivement, oui, si on stimule trop un sens, effectivement, ça peut causer des troubles et des pathologies sur ce sens-là en particulier.
Tu parlais de Vata, donc un des trois doshas, si je ne me trompe pas, c'est une des énergies vitales en Ayurveda. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, ces doshas?
Oui, alors... Je vais essayer de faire simple et raccourci pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc, avant de parler des doshas, je vais d'abord parler des cinq éléments. Donc, en Ayurveda, on considère que tout dans l'univers, absolument tout, est fait des cinq éléments. Donc, on a l'espace, on a l'air, le feu, l'eau et la terre.
L'espace, je ne le connaissais pas celui-là. Je connaissais, du coup, c'est le métal, non?
Alors, l'espace, en fait, c'est ce qui contient. C'est ce qui contient les quatre autres éléments. Donc, tout dans l'univers est fait de ces cinq éléments. Par exemple, cette table-là, qui est solide, l'élémentaire, c'est ce qui donne la solidité aux choses. Hein. Donc, c'est présent aussi dans le corps. Par exemple, les os, dans les os, il y a aussi l'élément terre. C'est ce qui donne la solidité aussi aux os. Donc voilà, on a ces cinq éléments là qui sont présents dans tout, y compris dans notre corps et dans ce qu'on mange. Et donc, comme on assimile ce qu'on mange, notre corps va se fabriquer aussi à partir des éléments qu'on a avalés. Et donc, pour faciliter notre compréhension, eh bien, ces cinq éléments, on les regroupe dans le corps humain en trois doshas. Donc, ce sont trois énergies vitales, c'est un peu trois grands managers du corps humain. Donc, on a Vata. Donc, Vata, c'est le dosha qui contrôle les éléments air et espace. Donc, ce dosha, eh bien, c'est le dosha qui gère les mouvements dans le corps. Donc, par exemple, c'est le dosha qui va contrôler l'accouchement, le déclenchement, vous voyez, le mouvement vers le bas de l'enfant. Donc, il gère tous les mouvements, aussi bien le mouvement de l'inspiration, de l'expiration, mes yeux qui clignent aussi, c'est Vata. Le transit intestinal aussi est géré par Vata. Donc voilà, ça c'est l'air et l'espace. Donc je dis l'air, ça pourrait être le vent, je pourrais dire le vent, le mouvement dans le corps. Le deuxième dosha, c'est Pitta. Alors Pitta, ce dosha contrôle les éléments feu et eau. Donc ce dosha-là, il permet la digestion des aliments. C'est-à-dire qu'il va... il permet de brûler, de transformer ce qu'on mange pour ensuite pouvoir fabriquer des tissus, etc. Il gère aussi la température du corps humain, les sensations de soif, la sensation de chaleur, etc., etc. Il aide aussi à avoir une bonne vision. Voilà. Et puis, on a le troisième dosha. Donc, le troisième dosha, c'est Kapha, qui contrôle les éléments eau et terre dans le corps. Donc, eh bien, on sait tous que le corps humain est composé, je ne sais plus, à 80 ou 90% d'eau. Voilà, donc le dosha Kapha, c'est celui qui contrôle donc l'élément eau et terre dans le corps. Et c'est celui qui va donner une bonne résistance au corps, qui va aussi lubrifier les articulations, hein, parce qu'il y a des fluides dans les articulations. Donc voilà, ça ce sont les trois doshas. Et eh bien on est tous avec une proportion différente des cinq éléments, donc une proportion différente des doshas. Donc il y a sept constitutions, peut-être que toi, je sais pas, t'es Vata Pitta, peut-être que moi je suis Vata Kapha, enfin voilà, il y a vraiment des profils très différents.
Et de le savoir, qu'est-ce que ça apporte ?
Alors, ce que ça apporte, c'est de pouvoir se dire, notamment en prévention, tiens, j'ai ce profil-là, donc d'accord, alors moi par exemple, peut-être que j'ai Vata qui est prégnant dans mon profil, ça veut dire que je dois être attentive à pas trop avoir de stimulation sensorielle, c'est-à-dire être raisonnable. Je dois être attentive à me nourrir suffisamment parce que, bah, par exemple, j'ai peut-être une structure qui est plus délicate qu'une autre personne. Je suis peut-être, je suis peut-être un peu plus mince qu'une autre personne. Je dois être attentive à avoir suffisamment de sommeil, suffisamment de nourriture nourrissante. Parce que peut-être que si je me nourris de salade et de crudités, eh bien, c'est pas suffisant pour moi. Ça peut être des tas de choses aussi du point de vue de l'hygiène de vie. Ça veut dire que peut-être je suis plus sensible qu'une autre personne. Donc, je dois être attentive à maintenir mon équilibre intérieur. Et si je suis capable, peut-être que je dois faire attention et éviter de manger beaucoup de produits laitiers, beaucoup de blé ou ce genre de choses. Voilà, donc ça permet d'agir en prévention. Parce qu'en général, quand on a une pathologie, cet équilibre, il est modifié. Voilà, donc on s'intéresse à d'autres aspects quand il y a une pathologie.
Alors comment l'Ayurveda perçoit la maladie et les pathologies pour le coup ?
Alors, d'un point de vue ayurvédique, quand il y a une pathologie, c'est qu'en général, on s'est éloigné de notre profil originel. C'est-à-dire qu'on est avec une certaine constitution, et tant qu'on maintient à peu près cet équilibre, on est plutôt dans notre zone de vitalité. Et par contre, quand on commence à s'en éloigner, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence un processus vers la pathologie. Voilà. Puis je me rappelle plus ta question.
Ouais, en fait, moi, du coup, ce que je me demande, par exemple, imaginons j'ai un profil plutôt Vata mm-hmm. et qui dirait que ce serait bien que je dors 9 heures mm-hmm. par nuit, mm-hmm. imaginons, et que bah, j'ai un travail qui peut me permettre de dormir seulement 5 heures par nuit. Oui. Est-ce que le fait de, pendant 5-10 ans, dormir 5 heures par nuit alors que mon profil Vata aurait besoin de 9 heures fait qu'à un moment donné, je peux me rapprocher quelque part d'une certaine pathologie ?
Clairement, oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, sachant que, je ne sais plus quand on en a parlé, tu me demandais des principes cardinaux. Le sommeil fait partie des piliers de la santé selon l'Ayurveda. On a l'alimentation, le sommeil et puis le contrôle des sens. Je crois que je l'ai dit, je ne me rappelle plus. Mais absolument, et le non-respect des besoins fondamentaux d'un être humain, c'est une cause principale d'alimentation de la maladie. Voilà.
C'est là aussi où c'est intéressant parce que, de nouveau, on essaye souvent de... d'être un peu tous pareils. Mm-hmm. Quelqu'un te dit « Ah, moi, j'ai besoin de 9 heures de sommeil. » Ah bon, mais il paraît qu'en fait, il en faut que 6. Mm-hmm. Non, mais en fait, il paraît que c'est bien d'en faire 10. Enfin, tout le monde a son avis, puis surtout son besoin, en mm-hmm. fait. Et on se rend compte qu'en réalité, il est complètement mm-hmm. différent, mais qu'il y a aussi un manque de tolérance, des fois, à mm-hmm. écouter le besoin de chacun et chacune. Mm-hmm. Et de savoir un peu dans quel profil on est, ça peut aussi, quelque part, nous déculpabiliser, entre guillemets, même si on ne devrait pas en arriver là, mais se dire genre « Non, mais en fait, moi, en connaissant mon profil, je sais que mon besoin, il est là, mm-hmm. et je peux peut-être aussi plus facilement le nommer face aux autres. »
Oui, tout à fait. Exactement, ça permet vraiment... Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, bon, comme tu sais, je suis asthmatique. Et l'Ayurveda, c'est vraiment ce qui me permet de garder le contrôle sur cette pathologie et de l'empêcher d'évoluer. Et puis, je pourrais même parler d'ailleurs de mes... J'ai eu des problèmes articulaires, peut-être que je reviendrai dessus tout à l'heure. Ça m'a vraiment sauvée. Hein. Et donc, effectivement, quand je me retrouve dans des situations sociales, eh bien, peut-être que je vais dire, bah non, moi, je ne peux pas aller manger à 22h au restaurant, ça va me rendre malade. Non, je ne peux pas aller dans un restaurant à raclette le soir, ça va me rendre malade. Et puis, non, je ne mange pas de blé le soir, ça va me rendre malade. Alors, ça paraît comme ça... On m'a déjà dit, hein, mais oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée ta vie, ça doit pas être facile, etc., etc. Mais en fait, c'est pas une complication, c'est vivre en phase avec mes besoins. Et ça me permet d'être affirmative parce que j'ai pu expérimenter dans mon corps. On m'a pas donné des théories. J'ai expérimenté vraiment ce que ça fait de manger une raclette à 22h le soir. J'ai pas dormi, j'étais malade, j'ai fait des crises d'asthme. Et le fait d'expérimenter ça, ça permet d'être droit dans ses bottes. Peut-être que toi, tu juges que bon, je fais des chichis avec mon alimentation, je suis casse-pied, etc. Eh bien, ma santé, ça passe d'abord. Donc, le côté social, que voilà, ça fait pas bon vivant, eh bien, ça permet vraiment de se reposer sur un essentiel. Voilà, c'est ça.
Mmh. Ouais, j'aime beaucoup cette idée-là. Après, c'est vrai qu'on sait qu'on vit aussi dans un monde où il y a des choses tellement hyper normées. Justement, finir tard le travail, mmh. se retrouver tard pour les repas, ce côté faire la fête tard aussi, et puis dès qu'on sort un petit peu de cette norme-là, on nous regarde souvent un peu de biais, hein, mais elle, c'est la chieuse, elle prend trop soin d'elle, ce genre de choses, mais au final, c'est quand même intéressant de se rappeler ça. Est-ce que toi, tu fais quand même des exceptions dans ton quotidien ?
Oh oui, alors oui, hein, j'ai pas... C'est pas parce que je suis nutritionniste que je fais zéro faute. Maintenant, j'essaye toujours que ce soit fait en conscience. Donc, je peux décider un soir que je vais aller au restaurant et que je vais manger un mets dont je sais qu'il ne va pas forcément me faire du bien. Mais j'ai conscience à l'avance de ce que ça peut générer. Et donc, bah, j'ai mon bronchodilatateur ou éventuellement, si c'est quelque chose d'acide, un remède ayurvédique pour contrer ça. Mais c'est juste que je ne le fais pas de façon irréfléchie. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me fais plaisir une fois, que j'ai un petit excès une fois, que je vais faire des excès tous les soirs. C'est vraiment une question de mesure. Moi, je dis pas du tout que à partir d'aujourd'hui, il faut plus rien s'offrir, il ne faut plus se faire plaisir et puis tout contrôler. Pas du tout. C'est simplement évaluer la balance bénéfice-risque et puis faire les choix en conscience.
Et puis, par rapport à la manière dont l'Ayurveda perçoit la maladie, je crois que tu m'avais aussi parlé une fois des 6 stades dans la maladie. C'est lesquels, ces stades ?
Alors, effectivement, et ça, c'est super intéressant, il faut que je vous raconte mon expérience avec mes douleurs articulaires. Je vais commencer par ça, d'ailleurs. En 2017, j'ai commencé à avoir des douleurs assez fortes au niveau des hanches. D'ailleurs, là, tu me vois assise comme ça. En 2017, c'était plus possible.
Il faut dire qu'elle est assise sur le coussin d'allaitement, hein, par terre, à même voilà. Le sol.
Pas en lotus, mais bon, voilà, c'est...
Pas loin.
Je pourrais m'asseoir en lotus à nouveau, parce que je n'ai plus pu le faire pendant 2 ans. Donc en 2017, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires au niveau des hanches et aussi au niveau des mains. Et puis, donc je ne pouvais plus m'asseoir pour faire ma méditation comme avant. Je devais faire attention pour m'asseoir dans mon lit pour pas provoquer de douleur. Je devais faire attention aussi pour monter dans ma voiture tellement c'était douloureux. Ça pouvait m'arriver de me réveiller en pleine nuit. De douleur parce que je faisais un mouvement qui ne convenait pas. Et donc là encore, moi je fais la tournée des médecins, toujours, comme ça me permet d'éliminer des pistes, etc. Donc je suis allée voir mon médecin généraliste, d'ailleurs j'ai un super médecin, qui m'a envoyé voir un rhumatologue, un orthopédiste, j'ai fait une radio, j'ai fait des échos pour essayer de voir ce qui se passait. Et à la fin de, je sais pas, j'ai peut-être passé 2 mois à tout explorer. Quand je suis revenue chez mon médecin, et j'apprécie beaucoup son humilité, il m'a dit, visiblement, il y a quelque chose, mais les examens ne montrent rien. Je ne peux rien actuellement pour vous parce que je ne sais pas ce que vous avez. On est peut-être au début d'une maladie rhumatismale inflammatoire, mais pour l'instant, c'est trop flou et je pourrai quelque chose pour vous uniquement quand la maladie sera déclarée. Alors, moi, j'étudiais déjà l'Ayurveda depuis 3 ans à cette époque-là, donc évidemment, mon sang n'a fait qu'un tour parce que j'avais pas l'intention d'attendre que la maladie arrive, évidemment.
Ouais, bah c'est clair, tu pensais prévention pour le
voilà,
coup.
Voilà, exactement. Et puis, alors pour le coup, mon médecin, il était génial parce que à aucun moment, il m'a dit « c'est dans votre tête, les examens ne montrent rien, vous êtes stressé ou je ne sais quoi ». Non, il m'a dit textuellement « je comprends que vous souffrez, je vois que vous souffrez, simplement moi, là, j'ai pas ce qu'il faut pour vous soulager ». Et donc, moi, j'étudiais déjà l'Ayurveda à cette époque-là, depuis 3 années, et je connaissais ce processus des 6 étapes du processus pathologique, et je me suis dit, je pars directement parce que je ne vais pas laisser la chance à cette maladie de se manifester.
C'est le moment d'agir.
Exactement. Et donc, c'est là que je suis partie en Inde, 3 semaines. Je suis allée me faire traiter dans un hôpital ayurvédique. J'ai reçu des médicaments avant mon traitement, pendant mon traitement, et puis j'ai aussi reçu un traitement sur 2 mois une fois de retour en Suisse. À la suite de ce traitement, 70% de mes douleurs avaient disparu, il en restait encore un peu.
Donc traitement en hôpital ayurvédique, voilà, pas traitement médicamenteux.
Non, pas traitement médicamenteux. En hôpital ayurvédique, j'ai eu des médicaments ayurvédiques, hein, toute une batterie de médicaments à prendre à mon retour. Et donc, En revenant, donc 70% des douleurs avaient disparu. Et bon, c'était pas fini. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai suivi aussi une alimentation un peu plus stricte. Et puis, ben, aujourd'hui, 100% de mes douleurs ont disparu. Ça m'a pris quand même 2 ans pour tout éliminer à 100%. Hein. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que je suis intervenue. Je pense que j'étais au 4e stade de la maladie. Et donc, en Ayurveda, on sait que la maladie, c'est le résultat d'un déséquilibre des doshas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est tous avec une constitution de naissance. Préserver cette constitution, bah, c'est préserver une forme de santé, de vitalité. Et puis, s'en éloigner, eh bien, c'est commencer un processus vers le déséquilibre et potentiellement vers la maladie. Donc, c'est tout un processus.
Et ces 6 stades, alors, tu peux nous les énumérer ?
Ouais, bien sûr. Alors, bah, c'est un peu comme un... Tu connais l'expression « la goutte d'eau qui fait déborder le vase ».
Ah bah, carrément.
Voilà. Bon, donc c'est un peu ça. Donc, la première étape de ce processus, eh bien, c'est que le ou les doshas, eh bien, s'accumulent dans le siège où ils sont d'habitude. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça va commencer à être compliqué, mais globalement, les doshas, ils agissent dans le corps entier, mais ils ont une résidence principale dans le corps qui est leur lieu d'occupation principale, on va dire.
Leur place de jeu.
Voilà, leur place de jeu. Et dans le processus de la maladie, eh bien, le dosha commence à s'accumuler à cet endroit-là. Ça, c'est la première étape, une accumulation. La deuxième étape du processus, c'est une aggravation. Donc là, on arrive... Ça montait graduellement, et puis là, le vase, il arrive un peu à ras-bord. Hein, ce vase rempli de dosha, il arrive à ras-bord. Et le troisième stade, si on n'a rien fait pour contrôler ça, eh bien là, ça déborde. Le vase, il déborde. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces doshas, ils vont aller se balader un peu partout dans le corps, faire un petit peu, un peu de désordre.
Donc, juste traduction du dosha, c'est énergie. Quand tu dis « il se balade dans le corps », c'est quoi exactement ?
Alors là, je comprends le... Oui, c'est une force vitale, mais leur action... leur action va se déplacer dans le corps.
Effets un peu de ces énergies-là.
Voilà. C'est pas une matière, hein, c'est pas un liquide.
Bien sûr.
Voilà. Donc, en fait, cette énergie-là va se déplacer dans le corps. Et donc, quand on ne contrôle pas ça, eh bien, ils vont partir un peu se promener dans le corps. Ça, c'est la troisième étape. À la recherche d'un endroit où squatter, tu vois, où s'installer bien confortablement. Ils vont chercher une zone faible dans le corps. Pour certaines personnes, eh bien, ça peut être les articulations. Donc, moi, j'ai eu ce problème au niveau des hanches. Pour d'autres, eh bien, ça peut être le sang. Pour d'autres encore, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être dans les poumons. Donc voilà, et donc quand le processus continue, eh bien ces forces vitales, eh bien elles vont s'installer dans le corps, et puis ils vont commencer à interagir avec les tissus du corps. Ils vont commencer à les dégrader, à les abîmer.
Ça, c'est la quatrième étape, la dégradation.
Voilà, exactement. Ça commence à ils interagissent avec les tissus du corps. Là, moi, ma maladie articulaire, c'était probablement le 4e stade. Ça commençait à
jouer. Donc, on commence déjà à sentir des symptômes à ce moment-là.
Exactement, exactement. Mmh. C'est là que j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires. Donc, quand on en est à ce stade-là, c'est encore flou. On ne peut pas, d'un point de vue de notre médecine moderne, on ne peut pas mettre un nom sur la pathologie. Donc, ça peut aller, ça peut venir. Une fois, on a mal, je sais pas, aux articulations des mains. L'autre jour, ça va être aux pieds. Voilà, c'est fluctuant. C'est pas installé encore. Et si on ne contrôle pas à ce stade-là, alors là, la maladie va pleinement se manifester. Et c'est le 5e stade. Et c'est à ce stade-là, en général, que notre médecin est capable de nous dire... voilà, vous êtes asthmatique, ou voilà, vous avez une polyarthrite rhumatoïde, etc., etc. Donc nous, dans notre médecine moderne, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut agir, parce qu'on a les médicaments pour, les traitements pour. Et avant, en général, c'est passer sous silence. Voilà, les symptômes ne sont pas encore forcément très installés, donc très invalidants. Donc, ça passe un peu sous silence. Éventuellement, je ne sais pas, on va peut-être prendre un antiacide, un petit antidouleur, et puis ça passe à l'as. Et donc, quand on néglige ces petites alertes, c'est là qu'on arrive donc au cinquième stade, à la manifestation de la maladie. Voilà, mais alors c'est pas parce que une maladie est clairement identifiée, clairement manifestée, comme pour moi avec l'asthme, qu'il faut se dire bon ben maintenant c'est foutu. Mmh. C'est pas ça du tout. On peut toujours agir d'une part pour éviter une aggravation et d'autre part pour améliorer la qualité de vie.
Et le sixième stade, du coup.
Le sixième stade, eh bien là c'est la complication, c'est-à-dire que les symptômes s'aggravent, la dégradation des tissus se poursuit et là on arrive à une maladie qui peut être incurable.
Donc ouais. C'est vrai que là c'est la question que j'ai envie de te poser parce que la plupart des auditeurs et auditrices aussi qui écoutent Les Invisibles sont des personnes qui peuvent facilement être au stade 5 ou 6 mm-hmm. Où on vit vraiment avec une maladie invalidante dans le quotidien. Qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là si l'aspect préventif on l'a déjà passé depuis mm-hmm. longtemps?
Oui, eh bien on peut toujours faire quelque chose. D'ailleurs, j'en sais quelque chose parce que, en dehors d'être nutritionniste spécialisée en Ayurveda, je suis aussi éducatrice thérapeutique avec l'association Diabète Vaux. Et donc, on organise des ateliers vivre avec une maladie chronique. Et donc, on peut toujours faire des petites choses. Alors, je sais que quand on vit avec une maladie qui est difficile à vivre, on peut se dire, bah oui, non, mais c'est pas un petit truc comme ça qui va faire quelque chose dans mon quotidien. Mais je dirais que chaque goutte compte. Préserver le sommeil, ça compte. Faire attention à son alimentation, ça compte. Sachant qu'aujourd'hui, on a une vraie méconnaissance de ce que c'est qu'une alimentation humaine rationnelle.
C'est clair.
Voilà, donc, l'Ayurveda, c'est vraiment... Le plus de l'Ayurveda, c'est que vraiment, on comprend la maladie autrement. Et puis, en fonction des doshas qui sont dérangés, on peut prendre des actions. Donc, je ne sais pas, moi, si c'est Vata qui est dérangé, on sait qu'on va avoir besoin de régularité, qu'on va avoir besoin d'une alimentation nourrissante mais digeste. Et ce que va apporter l'Ayurveda dans ce cas-là, c'est que peut-être que si on ne sait pas ça, on va continuer à manger comme on a toujours fait avant, sans se rendre compte que on continue à faire déborder le vase plus que de raison. Donc, alors, sachant que l'Ayurveda, c'est pas du tout une médecine qui est culpabilisatrice. Donc, c'est vraiment dans une optique positive de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bien-être. Voilà.
Et d'ailleurs, toi, ça a été un peu ton combat, ça, parce que tu as écrit un livre ouais. incroyable qui s'appelle « L'art de se nourrir avec l'Ayurveda », qui est un livre vraiment hyper dense. Il est complet en termes d'explications, de recettes. Enfin, moi, je l'ai eu entre mes mains et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ?
Alors, c'est d'abord que, en général, les personnes qui entendent parler d'Ayurveda, elles vont tout de suite entendre parler de Vata, Pitta, Kapha, les doshas, la routine, la dinacharya, enfin des tas de termes un peu compliqués quand on ne connaît pas. Et moi, ce que je voulais transmettre, ce sont des choses qui soient applicables tout de suite par tout le monde. Une façon de se reconnecter au bon sens et à la nature et à sa nature, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où on nous dicte l'index glycémique, les glucides, les lipides, les protéines, les calories, l'acide, le basique, enfin il y a tout un tas de concepts comme ça. Et puis aussi d'un point de vue ayurvédique, on va vous parler de Vata, Pitta, Kapha. L'essentiel, c'est de se mettre à l'écoute, de se reconnecter à, eh bien, ne serait-ce qu'au cycle du jour. Voilà.
Et des saisons, parce que c'est vrai que tu proposes des recettes en fonction des saisons. C'est hyper chouette, ça aussi. C'est très inspirant par rapport aux produits locaux qu'on a à chaque saison.
Voilà, exactement. Alors ça fait partie des grands oublis dans notre société. c'est que on parle toujours de d'ailleurs consommer local et de saison parce que c'est mieux pour l'écologie, mais pas que. Quand on mange du concombre toute l'année, en particulier en hiver ou au printemps, ça génère beaucoup, beaucoup de liquide dans le corps, beaucoup de mucus, ça favorise les petits rhumes, le nez qui coule, etc. Donc ça, c'est hyper important. Donc ce que je voulais vraiment, c'était transmettre à tout le monde de façon accessible des choses simples. Parce que ces choses simples, c'est bête à dire, mais aujourd'hui, on les a complètement oubliées.
Mmh. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager une de tes recettes, comme par exemple tes délicieux pancakes? On les a déjà fait une dizaine de fois à la maison, tellement ils sont bons et hyper simples à faire, parce qu'il faut dire, il n'y a même pas la pâte à laisser poser.
Voilà.
Donc c'est tout bête, mais j'ai envie d'un pancake, je mange un pancake.
Alors, ça, cette recette-là... Je l'ai créé parce que je voulais quelque chose d'un peu de léger pour le petit déjeuner. Et donc, c'est une recette qui est sans gluten, sans produits laitiers.
Et il n'y a pas d'œufs.
Voilà.
Non plus.
Donc, c'est vraiment des pancakes qui sont légers comme tout. C'est comme une plume sur l'estomac. Donc, on utilise de la farine de sarrasin, du lait d'amande et de la pomme. J'ai mis quand même un petit peu de levure chimique et puis un tout petit peu de vinaigre de cidre.
Bah personnellement, si je peux me permettre, ouais, j'ai remplacé la levure chimique par du bicarbonate de soude, ouais, et le vinaigre de cidre que je supporte pas bien, je l'ai remplacé par une cuillère de citron.
Oh bah c'est chouette.
Voilà,
c'est très
et
bien.
C'était hyper adapté, ouais. Voilà.
Oh bah c'est parfait. Donc en fait le principe c'est que bon on va utiliser on va faire cuire une pomme pour en faire une petite compote. Bon si vous avez une compote déjà prête, c'est tant mieux. Donc on ajoute est-ce qu'il faut que je donne le dosage
ou... Non, c'est voilà. Juste voilà, voir voilà. Un peu ce qu'il y avait comme ingrédient dedans, c'est tout simple.
Voilà,
quoi.
Donc c'est de la pomme, du sarrasin, du lait d'amande, on mixe, on rajoute de l'extrait de vanille, un peu de sucre, et puis on laisse un peu poser, et puis ensuite à la poêle avec un tout petit peu de matière grasse. Il faut juste penser à les laisser tiédir un peu ces pancakes, parce que comme il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas la même consistance que les pancakes lambda. Donc les laisser reposer, ça permet d'avoir une bonne consistance. Et vraiment, ce que j'aime, c'est que des fois, on peut manger les pancakes comme ça et ça nous reste sur l'estomac. C'est pour ceux qui n'ont pas un feu digestif de folie. Et donc ça, ce que ça permet de manger léger et nourrissant.
Ouais, et c'est très 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 gourmand. Alors du coup, ton livre, on peut se le procurer où? En librairie, partout?
Alors, il est commandable en ligne partout, sur Fnac, Cultura, enfin toutes les plateformes habituelles. Et puis, même si votre libraire indépendant ne l'a pas, c'est toujours possible de le commander. Et puis, en ligne, je connais pas le lien par cœur, mais... Bon.
Mais en tout cas, sur les plateformes de revente.
Voilà, exactement.
Super. Partout. Moi, j'arrive sur les deux dernières questions. Tiffane, est-ce que toi, tu avais envie de rajouter quelque chose à cette interview?
Oui, vous pouvez vraiment, vraiment... je veux dire que c'est jamais perdu. On peut toujours vraiment faire quelque chose pour son bien-être. Et puis moi-même, parfois, je suis en contact avec des personnes qui sont très malades. Et bien sûr, on ne va pas guérir un cancer avec des carottes. Je suis d'accord. Mais... on peut toujours éviter de faire déborder le vase avec des choses qui ne conviennent pas. Donc, n'hésitez pas. Il y a vraiment des choses simples et qui ne coûtent pas d'argent qu'on peut faire pour sa santé.
Elle me plaît assez cette nuance parce que c'est vrai que personnellement, je suis assez en colère quand je passe dans une librairie et que je vois comment soigner son cancer avec du jus de céleri parce qu'on croirait que c'est vraiment hyper simple et du coup, c'est hyper culpabilisant pour ceux qui arrivent pas. Mais comme tu dis, c'est beaucoup plus nuancé en fait. C'est-à-dire que non, on va pas soigner ça avec des carottes, mais c'est un peu comment ne pas aggraver. Et ouais, c'est cette question de la chronicité au final. Ouais. C'est comment des fois, on navigue avec tout ça, mais on peut essayer de temporiser certains symptômes pendant une certaine période.
C'est exactement ça, temporiser. Temporiser et maintenir tant bien que mal une qualité de vie. Enfin, moi, je suis encore asthmatique. Hein. Je n'ai pas guéri mon asthme avec l'Ayurveda. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai peut-être une crise par mois. Et si je ne faisais pas ce que je fais, ce que j'ai mis en place, ben, je pourrais prendre mon bronchodilatateur tous les soirs.
Ouais.
Donc ça, je veux dire, d'accord, je ne suis pas guérie de l'asthme, mais c'est quand même précieux.
Est-ce qu'on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut avoir des séances individuelles avec toi? Comment ça se passe?
Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Alors, mon compte s'appelle Ayurveda Cooking Therapy, parce que j'aime transmettre des recettes. Mon nom, donc, c'est Tiphaine Paonessa. Et oui, je donne des séances individuelles à distance, aussi bien pour les personnes qui veulent simplement améliorer leur bien-être que les personnes qui veulent avoir un peu des guides par rapport à leur pathologie, ce qui est bon pour elles, ce qui est moins bon, etc., etc. Et donc, j'ai une newsletter que j'ai appelée l'Ayurveda Cooking Club, dans lequel vous retrouvez régulièrement une recette et un petit podcast.
Ouais, c'est très inspirant. Je vais passer l'avant-dernière question parce que le message à faire passer aux personnes qui vivent avec une maladie, tu l'as déjà fait passer et très très bien. Alors, quel est le super pouvoir de l'Ayurveda?
Le super pouvoir pour moi, c'est vraiment de nous reconnecter à l'univers, parce qu'on vit à une époque, je dirais, qui entretient une déconnexion avec la nature. C'est-à-dire qu'on ne dit plus aux gens manger des céréales, des légumes et des fruits, on va dire aux gens manger tant de calories, tant de points et puis tant d'indices glycémiques. L'Ayurveda nous reconnecte avec le bon sens. Et ça paraît un peu bateau comme ça, mais je peux vous assurer que tous, pour la plupart, ce bon sens, ce sens de la nature, que peut-être avaient encore nos grands-parents, et pour beaucoup, on l'a perdu.
Voilà. C'est comme si ça nous reliait à quelque chose de plus intuitif, j'ai l'impression.
Exactement, plus intuitif. Bien que de temps en temps, notre intuition, mon intuition, si elle me dit de manger une pizza à 21h, elle est peut-être un peu déviée. Mais oui, il y a une question d'intuition, de ressentir de quoi mon corps a besoin en ce moment. Ok, je me sens fatiguée, mais cette fatigue, est-ce qu'elle est liée au fait que j'ai trop mangé ou au fait que je n'ai pas assez mangé? Est-ce qu'elle est liée au fait que c'est l'été, il fait très chaud, il fait très sec et mon corps est appauvri? Qu'est-ce que je fais en été quand mon corps justement est affaibli par cette chaleur? Est-ce que je vais aller faire un trail sous le soleil ou est-ce que je vais me mettre à l'ombre d'une forêt et boire de l'eau fraîche et me reposer? Est-ce que je vais aller manger des lasagnes dans un restaurant ou est-ce que je vais me dire bah, j'ai besoin de manger quelque chose qui me rafraîchisse et qui soit léger?
Je te remercie vraiment pour tous ces partages et enseignements et je suis contente du coup de clore un peu entre guillemets justement ces enregistrements d'interview avant les quelques mois à venir avec un si beau témoignage.
Ben merci à toi, c'était un vrai plaisir. Je suis très très contente de partager ça.
Merci.
Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.